L'erreur de copywriting que je vois très très souvent, c'est celle qui va vous empêcher de vendre. C'est que dans vos emails de vente, vous dites par exemple, moi je t'accompagne à développer ton chiffre d'affaires, à doubler ton chiffre d'affaires ou à dépasser les 3000 euros par mois. Et en fait, vous ne le prouvez pas. Enfin, en 2024, il faut prouver tout ce que vous dites.
Bonjour à tous et bienvenue sur Copywriting Game. Avant toute chose, je tiens à remercier Super Indep qui sponsorise cet épisode. Si comme moi vous êtes un auto-entrepreneur allergique à l'administratif qui veut juste se focus sur son activité, vous allez adorer Super Indep. Perso, ils s'occupent de tout, mon URSSAF, ma comptabilité, ma TVA. Et en plus, ils viennent juste de sortir un outil gratuit pour estimer l'état de santé administratif de votre micro-entreprise en moins de 5 minutes. Je vous mets le lien en description et je vous laisse avec l'épisode. Ciao. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandrina qui a fondé son agence emailing. Et ça tombe bien parce que du coup, ça va être le cœur de l'épisode, on va parler emailing. Bienvenue sur le podcast, Alexandrina.
Hello.
Écoute, ça, comme je disais en off, ça fait 2 ans que je t'ai envoyé le premier message pour te dire salut, ça te dirait de faire un épisode sur l'emailing. Et on n'a jamais réussi à se caler à un moment, donc très content enfin de qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. Peut-être pour ceux qui te connaissent pas, comment tu te présentes aujourd'hui?
Alors du coup, j'ai une agence et j'accompagne des entreprises et des indépendants à construire une stratégie d'emailing au sein de l'humain et de leur chiffre d'affaires. Et pour ça, on fait de la prestation et on a aussi des infoproduits qui sont beaucoup plus accessibles.
Ok, c'est clair, c'est précis, efficace.
C'est ce qu'on aime.
C'est ça. Alors du coup, l'idée, comme je te disais, c'est que je te pose un peu des questions pour aller creuser au max ce sujet de l'emailing. On peut peut-être commencer par les idées reçues sur l'emailing, parce que je sais que tu as des clients qui sont... Donc plutôt infopreneur e-commerce, donc plutôt éduqué à l'emailing, mais il y a encore des gens qui sont pas forcément très très alertes sur ce sujet-là. C'est quoi toi un peu les idées reçues que tu entends souvent sur l'emailing?
C'est des spams, ça me saoule de recevoir des emails et je veux pas passer pour un spammeur.
Ouais.
Ça, c'est totalement faux parce que si tout le monde investit autant en emailing, c'est parce que c'est un canal qui rapporte énormément d'argent. D'ailleurs, pour la petite statistique, pour 1 euro dépensé, l'emailing génère 42 euros. Donc, c'est très sympa. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils sont au moins abonnés à une newsletter qu'ils adorent. Donc, il faut que vous deveniez cette newsletter que votre cible va adorer.
Ouais, c'est ça. Il y a des gens, ils sont vraiment frileux à l'idée d'envoyer des emails parce que, en fait, tout le monde reçoit des emails. Mais ça fait peur aux gens d'en envoyer.
Oui, parce qu'en fait, on a tous eu une mauvaise expérience. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a spammé, mais nous, il ne faut juste pas qu'on devienne ce spammeur. Et généralement, les entreprises qui nous ont spammé, ce sont des entreprises, donc souvent des e-commerce, qui tous les jours voulaient nous vendre un canapé, une télé ou je ne sais pas quoi. Donc forcément, ça nous agace. Mais vous, les infopreneurs, enfin nous, on n'envoie pas des... Enfin, on ne va pas parler de nos offres en mode « Hey, achète ma presta !»« Hey, achète ma presta !» tous les jours. Donc on ne va pas passer pour ce genre de spammeur.
Ouais, le but, c'est vraiment de créer du lien. Et est-ce que toi, tu vois des erreurs un peu fréquentes, justement, pour pas passer pour un spammeur, peut-être des erreurs de copywriting que tu vois en emailing?
Alors, l'erreur de copywriting que je vois très, très souvent, alors, c'est pas celle qui va vous faire passer pour un spammeur, mais c'est celle qui va vous empêcher de vendre. C'est que dans vos emails de vente, vous dites, par exemple, moi, je t'accompagne... à développer ton chiffre d'affaires, à doubler ton chiffre d'affaires ou à dépasser les 3000 euros par mois, peu importe. Et en fait, vous ne le prouvez pas. Juste vous dites, moi, je t'accompagne à faire ça, je t'accompagne à augmenter ta communauté et tout, mais vous ne le prouvez pas. Et ça, enfin, en 2024, il faut prouver tout ce que vous dites parce que tout le monde s'est déjà fait avoir sur une formation ou une prestation. Et du coup, il faut vous prouver. Et pour ça, il faut soit vous parler de votre propre histoire, vous dites, je suis passé de ça à ça. Et vous pouvez aussi mettre en avant les résultats concrets de vos clients, pas juste ceux qui disent c'est trop bien de travailler avec Alexandrina. Il faut dire j'ai travaillé avec Alexandrina, elle m'a permis d'augmenter mon taux d'ouverture de A, également pour mon taux de clic, et en plus on a fait X ventes sur mon dernier lancement par exemple. Mais il faut que ce soit précis, ça c'est très très important. Et une autre erreur, si je peux me permettre, ça va être de être précis dans votre copywriting. Tout à l'heure, donc pareil, ça c'est pour les emails de vente, tout à l'heure je parlais du fait des gens qui disaient des bénéfices, enfin, qui disait par exemple la promesse ou les bénéfices de son offre, un truc du genre développer ton business. Sauf que développer ton business, ça veut tout et rien dire. En fait, moi, si je reçois un email, je t'accompagne à développer ton business, je vais être en mode, est-ce que par là, il veut dire je t'accompagne à gagner 2000 euros par mois? Dans ce cas, ça m'intéresse pas. Est-ce que par là, il veut dire je t'accompagne à dépasser les 200 000 euros par an? Ok. Ou est-ce que par là, il veut dire je t'accompagne développer tes produits digitaux pour faire moins de prestations? Pourquoi pas? Mais développer son business, c'est trop large. Soyez précis quand vous parlez de quelque chose. Comme ça, moi, le message va beaucoup plus me parler. Et pour être précis, en fait, il faut écrire un email comme si tu t'adressais qu'à une seule personne. Et par exemple, si tu t'accompagnes tous les indépendants, non, faut pas que tu t'adresses à tous les indépendants, faut que tu t'adresses aux indépendants, par exemple, qui viennent de démarrer leur activité, qui veulent quitter leur salariat et qui ont telle et telle problématique. Et là, tu vas être très, très précis dans ton message et ta cible va se dire, ah ouais, elle parle de moi, genre, il faut que je prenne son programme.
Ok, donc, petit récap, show don't tell, donc ne pas dire sans prouver, être précis dans ce qu'on annonce. Et donc le petit troisième en bonus, c'est vraiment s'adresser à une seule personne, avoir une idée en tête de la cible. Ok, très clair, c'est les basiques, mais je pense que déjà si plus de gens appliquaient ça, il y aurait moins de gens qui auraient peur de l'emailing, donc c'est top. Tant qu'on était sur les spams, tu disais les gens ils ont peur, c'est des spams, voilà. Mais il y a aussi des gens qui veulent à tout prix ne pas se retrouver dans les spams. Sachant que t'es plus au courant que moi de toutes les réglementations en termes de logiciels, emailing, machin. Est-ce que t'aurais 2-3 conseils à nous partager pour éviter à tout prix de se retrouver dans cet endroit maudit qui est l'onglet promotion ou spam?
Alors la première chose à faire, ça va être l'authentification des emails. Alors quand je dis ça, les gens ils ont peur. En fait, c'est des petites clés qu'il va falloir copier, qui sont dans votre outil d'emailing. Donc il faudra les copier et les mettre dans votre hébergeur. En fait, c'est grosso modo votre signature. C'est un peu le fait de pas authentifier ses emails. Ça enlève une sécurité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est vous qui avait envoyé l'email, et surtout on ne sait pas que l'email n'a pas été modifié entre le moment où vous l'envoyez et le moment où la personne l'a reçu. Donc ça va être une sécurité supplémentaire. Ça va vous prendre au moins 30 minutes à le faire, l'authentification des emails. Sur tous les blogs des outils d'emailing, il y a des tutos. Il faut juste taper authentification des emails plus par exemple MailerLite et vous allez tomber sur le blog de MailerLite avec comment on fait l'authentification des emails. Ça c'est la première chose à faire. Ensuite, pour éviter d'aller dans les spams, il faut que votre email soit léger. Donc, pour qu'il soit léger, on évite les images ou les gifs trop gros. Pour les images, on essaie d'être à moins de 300 KO pour l'ensemble des images. Et pour réduire les images, vous pouvez aller sur TinyPNG. Ça va réduire vos images, enfin les compresser. Ensuite, troisième petit conseil, ça va être d'éviter un maximum. Vous pouvez les utiliser, mais juste les réduire, ça va être les spam words. Les spam words, ce sont des mots qui ont été très, très souvent utilisés par les spammers, comme argent, mincir, tout ce qui est aussi vocabulaire du sexe, investissement, dans le lexique de l'investissement. Donc juste, vous, par exemple, si vous dites argent, bah dites-le qu'une seule fois dans votre email, ne le dites pas 5 fois.
Ah, c'est intéressant, j'avais pas forcément les spam words. Faut regarder, je pense qu'il doit y avoir des listes.
Moi, j'en fais souvent, enfin, je les republie souvent sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais sinon sur Brevo, je crois qu'ils ont une liste aussi. Vous tapez spam words sur Google, vous allez tomber sur plein de listes.
Ok, top sur ça. Et donc, je sais qu'il y a différentes séquences d'emails. Moi, il y en a une que j'ai envie de creuser avec toi, c'est la séquence de lancement. Parce que bah, je pense que c'est peut-être la plus connue et c'est celle qui permet de générer le plus de ventes en général. Quels sont un peu, est-ce que toi t'as une méthode, donc ton agence Wonder Success, est-ce que t'as une méthode made in Wonder Success pour faire des séquences d'email de lancement, ou est-ce que t'as plus des recommandations générales sur ça?
Ah, ce sera plutôt des recommandations parce que ça dépend d'un client à un autre, mais déjà déjà une séquence comme tu l'as dit, c'est qu'il y a plusieurs emails. Soyez sur, par exemple, si vous êtes en lancement, généralement avec mes clients, je veux dire, avec ce qu'on fait avec mes clients qui marche très bien, c'est que pour mes clients qui sont sur un lancement de 11 jours, on va envoyer 8 emails. Pour un petit lancement ou une petite opération commerciale de 5 jours, 4 jours, on va être sur un email par jour, et le dernier jour, pourquoi pas 2 emails.
Ok. Donc là, 8 emails, il y a des gens qui vont se dire, OK, 8 emails en 11 jours, je vais être un spammeur.
Non, il faut vraiment répéter. Et là, je parle de lancement. Enfin, mes clients, j'ai des clients, ils ont fait des lancements à plus de 50 000 euros et tout. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment répéter pour que les gens, ils achètent. Si vous faites moins de... En fait, si, faut pas avoir peur d'envoyer des emails. Il faut juste avoir peur de rater des opportunités de vente. Et clairement, si tu n'envoies pas d'emails, bah, tu ne vas pas vendre.
OK, donc email, et donc tu t'as dit, par exemple, sur une séquence de 11 jours, donc 8 emails, dont 2 le dernier jour, c'est ça?
Oui. Ça va être un tous les 2 jours, un tous les 2 jours au début. Le week-end, des fois, ça dépend du client, mais des fois, moi, j'ai des clients qui se disent, bon, c'est pas grave. Par exemple, quand ils lancent le vendredi, on laisse le week-end tranquille et on reprend lundi, etc. Et à partir de la fin, on va être à un par jour et le dernier jour, ça va être 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, la courbe de lancement, c'est toujours, les gens, ils achètent beaucoup au début, ensuite, ça baisse. Il y aura un creux qui est chiant parce que même psychologiquement, pour faire beaucoup de lancements, bah, tu te dis que enfin, ça dépend du produit, mais tu n'as pas beaucoup de ventes pendant ce creux-là. Mais c'est important ce qu'il faut répéter. Et vers les derniers jours, bah, ça va réaugmenter d'un coup. Généralement, c'est l'avant-dernier jour et le dernier jour. Le dernier jour,
Okay.
ça explose tout. C'est
Et
pour ça
question.
qu'on augmente la fréquence à la fin.
Question à 1 million d'euros, tu mets quoi dans ces emails? Il y a quoi à l'intérieur?
Alors, dans la séquence, en tout, il faut qu'il y ait, donc déjà dans tous les emails, il faut qu'il y ait la promesse. Après, dans la majorité des emails, il faut qu'il y ait les bénéfices. Parce que les gens, ce qu'ils regardent en premier, dans une offre, ce sont la promesse en un et en deux, les bénéfices. Ensuite, des témoignages, il faut quand même en mettre un maximum, si vous pouvez le mettre. Ou de la preuve sociale, même si vous parlez de votre propre histoire, il faut le faire. Ensuite, si vous avez des bonus et des garanties, il faudra aussi le mettre. Et oui, autre point très très important, ça va être contrer les objections. Les objections qui reviennent le plus souvent, c'est l'argent. Pourquoi ça coûte ce prix-là ou j'ai pas d'argent, donc il faut la contrer. Le temps aussi qui revient souvent, le temps ou l'énergie, combien de temps ça va me prendre. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est adapté à ma situation? Par exemple, moi je vends des templates et je sais que les gens se demandent est-ce que ils peuvent se l'adapter, donc je dois le contrer. Et pour ça, ben, je vais envoyer un email vidéo par exemple. Et voilà pour les objections qui reviennent le plus souvent. Et après, bon, qu'est-ce que tu fais comme email? Tu peux faire, par exemple, le premier jour, c'est un email, tu annonces que ton offre. Donc, en clair, c'est « Hey, mon offre vient de sortir, voici sa promesse, des bénéfices, concrètement, un peu le squelette de l'offre, peut-être deux, trois témoignages, et pour qui c'est, et puis voilà. » Le deuxième jour, ça peut être, par exemple, 3 erreurs à éviter si tu veux objectif de votre cible, et à la fin, vous renvoyez vers votre offre. Le troisième email, ça peut être un résultat client. Le quatrième email, vous pouvez contrer une objection, et ainsi de suite. Il y a vraiment tout. Vous pouvez casser des croyances limitantes,
Trop bien.
faire une FAQ, à la fin, ça marche bien aussi.
Là, tu viens de servir sur un plateau un modèle de séquence email de lancement, donc c'est top. Juste pour spécifier sur la promesse, au cas où il y a des gens qui ne soient pas très familiers, donc c'est vraiment un truc dont on parle souvent en copywriting, et c'est voilà, quelle est la proposition de valeur, quelle est la transformation que va traverser la personne. Là, ce client, ce prospect, il est d'un point A. Comment on va le faire passer d'un point B et comment il va se sentir en arrivant à ce point B. Donc c'est ça la promesse et les bénéfices derrière qu'on peut mettre en avant. Ok, donc hyper clair sur la partie séquence de vente. Après, il y a un sujet, c'est au niveau de l'objet. Souvent, moi le premier, c'est un truc sur lequel je me creuse un peu la tête. Est-ce que toi, tu as des exemples un peu d'objets que tu utilises souvent avec tes clients ou des erreurs à pas faire sur cette partie-là?
Alors pour les objets, généralement, bon déjà le premier conseil que je peux donner, c'est de faire des objets assez courts, maximum 55 caractères pour que sur mobile les personnes le voient
Ouais.
en entier. Ensuite, ce qui
Et ça,
marche
c'est
bien.
important. Parce que souvent, les gens, ils préparent les emails sur ordi, sur desktop, mais sauf qu'ils vont être consommés sur mobile, et du coup, tu te rends pas compte que c'est coupé.
Oui. Et ensuite, bah là, je peux vous donner des trames, parce que c'est vrai que les objets, il y a tellement plein d'objets qui
C'est
peuvent
vrai que t'as
bien
les templates.
marcher. Voilà, j'ai des petites trames
Les
d'objets.
templates d'objets.
Donc, ça peut être comment plus objectif de votre cible. Là, votre cible, elle va ouvrir, parce que moi, tu me dis comment gagner 200K par an, bah, je vais ouvrir, je vais cliquer dessus. ou les trois étapes pour, la méthode pour, le secret pour, voilà, tout ça, ça marche très bien. T'en as marre de plus problématiques de votre cible, ça aussi, ça marche très très bien. Les objets un peu clivants en mode tout le monde s'en fiche de, par exemple, ton post LinkedIn, parce que si tu publies tout le temps des posts LinkedIn, tu vas dire ah, pourquoi elle m'insulte là, pourquoi tout le monde s'en fiche de mon post LinkedIn. Les objets un peu ouais, qui font un peu qui font référence à quelque chose qui rend, enfin par exemple récemment j'avais fait un objet, c'est Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Là, ça fait référence à la chanson de James. Les gens, ils ont cliqué parce qu'ils se sont dit oh, c'est drôle comme objet, c'est sympa.
Oui, c'est vrai que tu mets pas mal de, on en a pas parlé, tu mets pas mal d'humour dans tes emails.
Oui. Oui, oui, des objets avec un peu d'humour. Il y a aussi un copywriter, Sami Terki, qui est très fort avec des objets où il fait beaucoup d'humour. J'aime beaucoup ces objets. Franchement, si vous voulez de l'inspi pour vos objets, suivez, enfin, des objets drôles et originaux, suivez Sami Terki.
Sami qui était passé dans le podcast dans les premiers invités, je m'en souviens.
Ah, trop bien.
Sami. Je voulais te demander aussi, ça, c'est un truc que moi, je vis un peu avec ma newsletter. C'est comment je me creuse un peu la tête sur comment faire pour que les gens y répondent. Parce que souvent, c'est pas comme sur LinkedIn. Tu vois, moi, à la base, je crée beaucoup plus de contenu sur LinkedIn que sur ma newsletter, même si je sais qu'il faut que je travaille sur ce chantier-là. Et en gros, bah, c'est plus dur de faire répondre les gens par email que sur les réseaux. Généralement, l'audience de la newsletter, elle est plus discrète. Est-ce que toi, t'as des petites techniques pour créer un peu plus d'engagement, faire en sorte que tu aies des retours à tes emails?
La première technique, ça va être de leur demander de te répondre. Par exemple, récemment, j'ai fait une newsletter dans laquelle je présentais le bilan de mon lancement. Et à la fin, j'ai dit, est-ce que tu aimes ce type de contenu? Dis-le-moi, parce que comme ça, je vais savoir si je continue ou pas à envoyer ce genre de newsletter. Donc ça, ça marche bien. Parce que du coup, les personnes, si elles ont vraiment aimé, vont se dire, bah oui, moi, je veux continuer à recevoir des emails comme ça. Donc, ils vont répondre. Ça, c'est vraiment la solution la plus simple. Après, il y a des types d'emails qui vont générer plus de réponses. Généralement, ça va être des emails branding, storytelling, parce que tu vas parler de quelque chose qui touche beaucoup aux émotions ou clivant, même les emails très clivants, genre un coup de gueule sur... je sais pas, moi, une fois, j'ai fait un coup de gueule sur un client qui, typiquement, le genre d'email qui va fonctionner, je vais prendre un exemple pif, c'est, je me suis fait arnaquer par un client. Ça, t'es sûr que tu vas avoir des réponses. Parce que les personnes qui ont eu le même problème, elles vont te répondre. Donc, c'est des typologies d'emails qui vont faire en sorte que les gens, des types d'emails, que les gens, qui vont faire en sorte que les gens vont répondre. Et après, si ton audience, une autre astuce, alors, ils vont pas répondre, mais en clair, c'est de t'écrire ton mail et à la fin, tu dis, est-ce que si tu as aimé cet email, clique sur, par exemple, moi, je dis le gif en dessous. Le fait que ce soit juste un clic, les gens, ils se disent, ouais, bon, c'est un clic, c'est bon, je vais cliquer. Et ça, ça marche bien.
C'est vraiment leur demander le moins d'efforts possible pour avoir des petits signaux d'intérêt, quoi.
Voilà.
Ok, bon tips. Bah, je vais tester. Je te dirai.
le gif, ça marche pas. Le gif ou une photo, peu importe, ou un petit cœur, mais ça marche bien.
Mais tu renvoies sur quoi après? Quand ils cliquent.
Ça dépend. Alors, des fois, je renvoie vers mon article, vers mon blog. Et c'est des fois, des fois, je fais des petites blagues. En fait, c'est un gif sur les Totally Spies. Ben, je vais leur renvoyer vers le générique des Totally Spies. Et puis, je mets, si tu verras, ça va te rappeler des souvenirs ou des trucs comme ça. Je fais une petite blague.
Mettre une photo de toi en mode merci d'avoir répondu.
Bah oui, ça aussi, ça peut être ça. En fait, tu as tellement de possibilités.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, tant qu'on est sur... je te parlais de ma newsletter. Tout à l'heure, tu as parlé de MailerLite. Moi, j'utilise cet outil-là. Je me tâte à passer à Substack parce que, notamment pour la partie un peu recommandation, j'ai l'impression que c'est plus poussé, tu peux faire plus de trucs par rapport à ça. Et il y avait une autre raison, je me souviens plus pourquoi ça m'intéressait, Substack. Ah oui, aussi parce qu'ils te fournissent une page très rapide de capture, tu vois, genre t'as pas à faire une page de capture, elle est direct faite. Je trouve ça assez minimaliste, j'aime bien. Toi, t'as un avis MailerLite, Substack ou pas?
Alors, les deux sont bien, ça dépend vraiment de tes objectifs. Alors, Substack, déjà, si tu veux des réponses et des likes, ta newsletter, tu veux des réponses ou des likes, choisis Substack. Parce qu'avec Substack, t'as le petit like et en plus, t'as la partie commentaire. Donc, si c'est ce genre de truc qui va te motiver à envoyer des newsletters, voilà, choisi Substack. Après, comme tu as dit, Substack, c'est vrai que c'est l'outil pour les blogueurs. Enfin, là-bas, c'est un peu les blogueurs, créateurs de contenu. C'est simple, tout est facile, en fait. Ils te fournissent la page de capture, ils te fournissent le template de ta newsletter, donc tu n'as même pas besoin de faire le design. Donc, c'est très, très facile à utiliser. Le seul inconvénient, c'est que si tu veux faire des automatisations, beaucoup d'automatisations, bah, tu ne pourras pas les faire sur Substack. Si tu veux faire de la segmentation, tu ne peux pas le faire avec Substack. Par exemple, si tu veux faire une automatisation de bienvenue poussée, bah, il faudra prendre MailerLite. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux une newsletter un peu plus designée, plus jolie, il faudra prendre MailerLite. Donc, c'est assez limité.
Ok. Toi, tu utilises quoi ?
ActiveCampaign.
Ok. Ah ouais, j'ai regardé, mais il est un peu cher.
Oui, ActiveCampaign, généralement, c'est quand... Enfin, moi, je le recommande que quand tu veux utiliser toutes ces fonctionnalités.
Ouais. Donc, toi, t'es vraiment poussé dans les segmentations.
Voilà, oui, c'est vrai que moi je vends beaucoup en automatique.
Oui. Non, mais j'avoue, donc ça me fait réfléchir. C'est vrai qu'à court terme, pour mon confort, Substack ce serait bien. Après, MailerLite, c'est vrai que si demain je veux faire de la segmentation, ça m'intéresse quoi.
Oui, parce qu'en plus, Substack, je crois que oui, comme tu dis, c'est bien pour les pour augmenter ta mailing list entre guillemets. Oui. Parce que du coup, t'es recommandé et tout, enfin, t'as plein de trucs comme ça.
Bah, tiens, d'ailleurs, tu me tends une perche. Pour augmenter sa mailing list, si je reste sur MailerLite, donc sans bénéficier de Substack, c'est quoi, qu'est-ce que je peux mettre en pratique là pour gagner plus d'abonnés à la newsletter?
Alors, t'as deux possibilités. Déjà, tu peux créer un lead magnet, donc un cadeau que ta cible voudra absolument télécharger. Et après, il faut communiquer tout le temps sur ton lead magnet. Il ne faut pas juste communiquer dessus au lancement. Et l'autre possibilité, ça va être de communiquer sur ta newsletter. Donc déjà, moi, je recommande, si tu veux bien augmenter ta mailing list, de communiquer au moins 3 fois par semaine sur ta newsletter et ou ton lead magnet. Le minimum, comment faire, tu as plusieurs possibilités. Imaginons que demain, tu envoies une newsletter, tu peux teaser sur la newsletter. Par exemple, c'est 5 étapes pour objectif de ta cible. Tu peux en donner 2. Dans un post et tu dis si tu veux voir les 3 autres, il faut t'inscrire. Ça marche bien.
Déjà, je le fais 3 fois par 3 fois par mois, donc je peux peut-être intensifier ce truc-là.
Oui, en vrai, faut le faire tout le temps. Et en fait, même quand tu fais des posts pas sur ta newsletter, en fait, tu peux le mettre en PS. Moi, je fais souvent, je devais faire un post sur tel sujet. Et dans ma dernière slide, ceci c'est un carrousel ou en PS, je vais dire d'ailleurs j'offre un cadeau en ce moment, c'est le nom du cadeau, clique ici pour le télécharger. Et ça c'est un lead magnet du coup que je mets en avant.
Donc toi t'as plusieurs lead magnets ?
Oui, ah oui, j'en ai plein.
toujours à chaque fois par rapport à ce que tu vends.
Oui, c'est bien. Ça, chacun de mes lead magnets renvoie bien à la fin vers un produit.
Et oui, est-ce que tu fais de la... Toi, tu fais que de l'organique ?
Non, je fais aussi de la pub sur Facebook.
De l'ads. Ok.
Ouais, pour vous donner un budget en ce moment, donc alors on tourne le podcast, je mets 300 € de budget en pub, ce qui me ramène environ 130-150 inscrits à ma newsletter par mois.
Est-ce que tu considères que c'est rentable après, derrière ?
Oui, j'avais fait d'ailleurs une pause parce que c'est vrai que tu n'as pas forcément les résultats directs, mais tu l'as plutôt sur le moyen terme. Donc, au bout d'un an, tout avait été rentabilisé. Donc, j'avais repris la pub.
Donc là, admettons, tu repars de zéro, tu n'as plus rien. Tu veux lancer ta newsletter. C'est quoi un peu le plan étape par étape que tu vas suivre pour développer ton business avec ta newsletter?
Alors, déjà, le premier plan, c'est que déjà, c'est réfléchir à ce que tu veux, toi, comme newsletter. C'est définir ta ligne édito, ta promesse et tout. Donc, déjà, c'est quoi ta promesse? Qu'est-ce que tu veux leur délivrer? Pourquoi les gens vont s'inscrire à ta newsletter? Ensuite, ça va être de réfléchir aux objectifs. C'est quoi ton objectif? Tu peux avoir plusieurs objectifs avec ta newsletter. Est-ce que ça va être de raconter des histoires plus personnelles que sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas vouloir défendre des valeurs qui sont importantes pour toi? Est-ce que tu veux être vu comme un expert dans ton domaine? Comme je l'ai dit, tu peux avoir plusieurs objectifs. Moi, dans ma newsletter, typiquement, ces 3 objectifs. Puis là, c'est pour ça que je les ai cités. Ce sont mes objectifs. Et ensuite, tu vas définir aussi ta tonalité. Bon, si tu es déjà sur LinkedIn, tu peux reprendre la même tonalité. Sinon, il faudra réfléchir à ta tonalité. Ensuite, une fois que ça, c'est clair dans ta tête, vas devoir réfléchir à un moyen pour avoir toutes les semaines des nouveaux inscrits dans ta newsletter. Donc, il va falloir créer ton lead magnet. C'est le moyen le plus facile, c'est pour ça que je parle tout le temps du lead magnet, parce que c'est un cadeau, les gens s'inscrivent très facilement. Et avant de communiquer sur ton lead magnet, il va falloir faire ta séquence de bienvenue. Donc si tu es sur sur Substack, je crois que ils ont pas d'automatisation, je suis pas sûre que tu puisses faire plusieurs emails de bienvenue.
Je sais même pas, tu vois. Bah MailerLite, je sais que tu peux.
Ouais, MailerLite, c'est sûr. Mais bon, si vous pouvez pas sur Substack, vous faites au moins un email de bienvenue. et sinon sur MailerLite, vous en faites 3. Et dans les emails de bienvenue, généralement, le premier email, c'est pour remercier. Vous pouvez faire un email numéro 2 pour apporter de la valeur. Et l'email numéro 3, c'est plus un email émotion, storytelling. Parce qu'en fait, les gens, pour acheter chez vous, ils doivent vous voir comme un expert, mais ils doivent aussi vous aimer, surtout si vous êtes dans l'infopreneuriat.
Est-ce que tu fais un email sortez-moi des spams ou tu sais, un peu info pratique
Oui, ça, tu peux le faire. Enfin, tout le monde ne le fait pas, mais c'est peut-être une bonne pratique si tu as. Enfin, si tu vois que tes stats, elles sont à 30%, que tu veux passer à 40%, c'est une bonne pratique.
Moi, je suis à 50%, 50% par là de taux d'ouverture.
Ouais, il faut toujours rester à 40%.
Flex dans mon podcast, voilà. En vrai, je ne sais même pas si c'est bien. Je ne sais même pas si c'est une bonne stat.
Si, à 50, c'est bien. En fait, en emailing, un taux d'ouverture très bien, ça va être plus de 40%. Après, c'est une moyenne, c'est sûr que quand tu as 10 000 abonnés, avoir 40%, c'est plus difficile que quand tu as 101 abonnés. Quand tu as 100 abonnés, généralement, tu as 60, 70. Et après, plus tu grossis, plus ton taux d'ouverture descend. Mais du coup, c'est toujours de rester au-dessus de 40%. En très bien. Genre, si vous avez 30%, vous êtes juste bien. C'est pas non plus mauvais.
On vise le très bien.
Voilà, nous, on veut le très bien, c'est ça.
Et donc, oui, donc après, tu as la séquence de bienvenue. Et après, c'est bon,
tu
as lancé.
Voilà, après, tu programmes tes premières newsletters. Et tu communiques tout le temps sur ton lead magnet, mais vraiment... Ah oui, d'ailleurs, une astuce pour avoir facilement des inscrits à votre newsletter, c'est dans votre message de bienvenue sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un s'abonne chez vous, de lui envoyer un petit message en mode « Coucou, bienvenue sur mon compte, si tu as des questions, dis-moi. » Et d'ailleurs, si tu manques... vous parlez, par exemple, moi, je sais, si tu manques d'idées pour tes newsletters, je t'offre 52 idées de newsletters, clique ici, et à très vite. Et ça vous ramène du monde.
Ouais, je t'avais vu en parler dans un contenu, je me suis dit « Putain, pourquoi je fais pas ça ?» Trop le faire, ouais. Parce que moi, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn, donc j'ai souvent des gens qui s'abonnent à moi. Et après, je profite pas de ce truc-là pour les basculer vers la newsletter. Donc c'est dommage.
Oui, et surtout l'avantage de la newsletter, c'est que tu es sûr que ton email, les personnes le reçoivent bien, alors que ton post LinkedIn, tu cliques sur programmer, enfin publier, mais t'as pas tout le monde qui le voit.
Et donc là, c'était hyper clair sur la partie emailing. C'est cool, pas mal d'astuces. Si on passe un peu plus sur la partie Wonder Success, déjà, c'est qui aujourd'hui tes clients? Donc, on a parlé d'infopreneurs. Est-ce que tu vends à d'autres personnes aussi?
Alors, je suis à 60-65% d'infopreneurs et 35% environ de e-commerce.
Et... Donc aujourd'hui, tu as deux parties. Tu as la partie prestation de service et la partie vente de produits. Pourquoi tu as choisi de vendre des petits produits et pas de te concentrer, par exemple, sur juste la partie accompagnement? Parce que je pense que c'est plus rentable la partie accompagnement. Enfin, tu me dis si je me trompe. Mais...
Oui, c'est plus rentable la partie accompagnement. Mais en fait, si j'ai lancé des petits produits, c'est parce que j'ai énormément d'indépendants et de freelances qui me suivent, notamment via la création de contenu, parce que tu attires plus facilement des freelances. Et du coup, aussi via ma newsletter. Et je me suis dit, en fait, c'est des personnes qui me suivent. Mais quand tu démarres, c'est pas ta prio de déléguer ta newsletter. T'as pas le budget pour, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, il faut que je leur trouve un produit adapté pour eux. Et c'est comme ça que j'ai lancé des petits produits. Et j'ai plein de petits produits à moins de 100 euros. Comme ça, au moins, tout le monde peut se former ou avoir des templates, parce que je vends aussi des templates d'emailing.
On mettra tout ça, on mettra tous les liens en description. Et je voulais te poser une question aussi par rapport à... Je sais que tu fais des masterclass et des challenges. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose ou si c'est différent.
C'est différent. En fait, la masterclass, c'est en one shot. Tu fais le live. Et en challenge, généralement, c'est sur plusieurs jours.
D'accord. OK. Ouais. Et du coup, pourquoi tu fais ça? Et c'est quoi un peu ton retour d'expérience sur ces sujets-là?
Alors, si je fais des masterclass et des challenges, c'est parce que c'est un vrai bon coup de boost pour vos ventes. Enfin, j'ai jamais fait une masterclass ou un challenge qui n'a pas du tout converti. Donc, c'est un peu une valeur sûre pour vendre. Parce qu'en fait, les gens, ils nous suivent, mais ils nous connaissent que par écrit. Et le fait de voir la personne en live ou en challenge, c'est-à-dire en vidéo, en fait, on va voir comment, enfin, si elle est pédagogue, on va aussi ressentir un autre feeling avec cette personne. Et du coup, c'est plus facile pour acheter. Donc, c'est un facilitateur d'achat, on va dire. Et la différence entre les deux... Alors, maintenant, je ne fais plus de challenge. Enfin, actuellement, ça fait déjà plus d'un an que je n'en ai pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est très, très long de faire un challenge. C'est sur plusieurs jours, donc ça demande aussi beaucoup d'énergie. Pendant plusieurs jours, il faut répondre aux questions, être là, envoyer plus d'emails. Enfin, voilà, c'est très énergivore. Depuis un an, je ne vends plus de... Enfin, si j'avais mon accompagnement de groupe, mais du coup, je préfère la masterclass, c'est moins fatigant, mais ça prend quand même une bonne journée à préparer une masterclass.
Pour la masterclass, c'est quoi ton setup? Tu utilises quoi comme outil,
par exemple? Zoom.
Zoom, ok. Donc tu fais la promo sur les réseaux, tu dis bah voilà. Après, ils s'inscrivent pour recevoir le lien, je suppose.
Oui.
T'envoies le mail avec le lien Zoom, et après, tu fais ta masterclass.
Exactement. Moi, j'ai des emails de rappel pour pas qu'on oublie. Minimum 3 emails de rappel.
Ok, 3 emails de rappel.
Au minimum, ouais.
Et tu fais la promo combien de temps, par exemple, avant ?
Entre 7 jours et 14 jours, selon mes clients. Pour moi, je suis sur du 7 jours, mais j'ai des clients, on est bête sur du 14 jours.
Et après, tu fais la masterclass, et dans la masterclass, après, tu fais la promo à la fin, je suppose ?
Oui, c'est ça.
Pour tes accompagnements ?
C'est ça. Enfin, pour un peu... Là, en ce moment, c'est plus pour des petits produits.
Intéressant. Je me rends compte du champ des possibles sur ça.
Ah, mais masterclass, faut tester. Enfin, si vous êtes à l'aise en vidéo, parce que c'est vrai que si t'es pas du tout à l'aise à l'oral, bon, ça va se ressentir. Mais si t'es pas, moi, je suis pas non plus ultra à l'aise à l'oral, mais si ça te dérange pas, plutôt de faire une vidéo, bah, go.
Ouais, ça me dérange pas.
Bah oui, toi, tu fais des podcasts de toute façon.
Ouais, après, c'est pas totalement la même chose, tu vois. Là, on est tous les deux tranquilles. Si on dit des conneries, on peut couper.
J'avoue. Mais bah, du coup, le challenge, c'est pour ça que j'ai commencé par faire des challenges au début. C'est que le challenge, t'es pas obligé de le faire en live. Tu peux enregistrer ta vidéo et tu la publies le lundi à 9h. Enfin, tous les jours à 9h, tu publies tes petites vidéos. Et les gens, ils aimaient bien aussi ce format-là. Donc,
Oui, mais du coup, s'ils ont des questions.
Du coup, ils les posent. En fait, moi, j'avais ouvert un groupe Facebook et du coup, les questions, ils les posent en commentaire et je répondais à tout le monde. C'est pour ça que c'est énergivore, c'est que t'as pas mal de questions à répondre.
Trop cool d'avoir un peu les coulisses. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour là. La petite tradition du podcast, c'est de faire un petit jeu pour terminer. C'est le deux vérités, un mensonge. Donc, pour rappel, normalement, t'as préparé trois choses sur toi ou enfin. Que ce soit pro ou perso. Et il y en a deux qui sont vraies et une qui est fausse. Et moi, je vais tenter de deviner le mensonge. Donc, je te laisse me dire les trois choses.
Alors, vu que j'adore les séries et les films, je me suis dit que j'allais rester dans cette thématique. Donc, voici les trois choses. Je n'ai jamais vu Harry Potter. Je n'ai pas du tout aimé Game of Thrones. Et je n'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux.
Aïe, aïe, aïe. Alors on se connaît pas assez pour que j'ai ces infos, donc là tu vas voir. En vrai, il y a plein de gens qui aiment pas Game of Thrones, donc je pense que ça c'est assez plausible. Je pense que t'as déjà vu Harry Potter, mais que t'as jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Donc je vais dire que Harry Potter c'est un mensonge.
Oui, t'as eu bon.
Yeah. Mais pour le coup, ouais, Game of Thrones j'ai kiffé moi, mais par contre ça met du temps à rentrer dedans.
Bah oui, c'est ça, mais moi, mes séries, j'aime que... En fait, si les 10 premières minutes, j'aime pas, bah je regarde pas la série.
Ah bah là, il faut que tu... Moi, pour l'anecdote, j'ai regardé 3 fois le premier épisode de Game of Thrones avant de me mettre dans la série. Genre, à chaque fois, tout le monde m'en parlait, ça a duré sur plusieurs années, et genre, à chaque fois, les gens, ils me disaient, mais si, mais c'est incroyable et tout. Et genre, je regardais le premier épisode, je dis, ah bah non, ça me saoule. Et quelques mois après, on m'en reparlait, donc j'ai regardé. Et au bout de trois épisodes, je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, Victor, tu regardes jusqu'au moins l'épisode 2-3. Et après, je suis rentré dedans et...
Mais je trouve ça dingue qu'ils arrivent à faire en sorte que les gens regardent plusieurs fois le même épisode, et même qu'ils se forcent à regarder jusqu'à plusieurs des premiers épisodes pour aimer la série. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, il faut que tu regardes les 3 premiers épisodes, mais je suis en mode, mais moi, ça, j'aime pas, enfin, ça m'énerve de regarder ça, genre 10 minutes, c'est bon.
Bah ouais, bah...
Ouais, ils sont forts, sur le coup.
Pour le coup, maintenant, je suis fan, donc je te dirais de re-regarder.
Ils ont réussi à créer une communauté de fans.
C'est ça. Écoute, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot ou est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actus?
Du coup, je publie tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc sur LinkedIn, c'est Alexandrina Noguera de Souza. Et sur Instagram, c'est The Wonder Success. Et ensuite, on publie aussi 3 articles par mois sur mon blog. Et puis après, il y a ma newsletter, donc inscrivez-vous à ma newsletter. Mais ça, je ferai la promo dessus sur les réseaux sociaux.
Merci Alexandrina.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Superindep, le sponsor de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour faire l'audit gratuit. À la fin, vous repartez avec une note et une liste de points de vigilance personnalisée sur l'état de santé administratif de votre micro-entreprise. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.